Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Hey, hey, c'est le temps d'accueillir les gars en Allemagne. Ils nous parlent depuis Berlin en direct, peu importe l'heure ou le fuseau horaire. Maxime Lapierre, bonsoir mon Maxime.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très très bien, content de te reparler aujourd'hui. Guillaume qui a quel fou rire lui avant même qu'on lui ait dit bonsoir. Bonsoir mon Guillaume.
Salut Mario, non, l'intro de Max était 40.
Ah oui?
Peu importe l'heure, il est là.
Oui, monsieur.
Un samouraï.
Un vrai de vrai. Moi, dire une affaire, je sais pas quand il dort. Je sais qu'il pratique à tous les jours avec les gars de son équipe à Berlin. Je sais qu'il fait votre podcast, qu'il participe au meeting. Bref, une vraie machine. Et tu me permets, Guillaume, d'adresser la première question à Maxime ce soir. Mais tu vas rebondir là-dessus, évidemment. On parle beaucoup de Tampa Bay pour cause. On se reconnaît beaucoup là-dedans, beaucoup de gars de chez nous. Maxime, de nous tous ici rassemblés en ondes, t'es celui qui est passé le plus proche de gagner une Coupe Stanley. Moi, je veux savoir, on parle peu des perdants, mais quand on a passé si proche, toi, de voir une équipe soulever la Coupe Stanley, ça vient-tu te chercher dans tes émotions, puis ça te ramène-tu à ce que tu as vécu dans un septième match contre les Browns, sans reparler de la série, mais je parle juste d'émotion de voir un club gagner la Coupe.
Ben certainement. Écoute, Mario, je te garantis que j'y pense à tous les jours depuis que je l'ai perdu, cette fameuse Coupe Stanley-là. Puis c'est t'apprends à vivre avec, c'est certain, mais j'y pense à tous les soirs. Je me demande toujours ce que j'aurais pu faire de mieux. Je m'imagine toujours compter un gros but pour réussir à gagner ce match-là. Mais je suis tellement content pour les gars à Tampa Bay. Là, surtout, là, je le mentionne souvent, mais l'année passée, ils ont vécu de l'adversité au plus haut niveau. Puis là, ils ont finalement le trophée, ils le méritent. Ils ont fait des belles acquisitions cet été. Ils ont réussi à changer l'alignement un petit peu, sans justement tout démolir. Hein. Ils ont pas paniqué, mm-hmm. Puis ils ont dit bon, on a perdu, on avait une grosse saison, puis on échange tout le monde. C'est pas ça qu'on a fait. On a été patient. On a juste fait quelques petites modifications, puis ça a payé.
Toi, Guillaume, comment tu regardes ça? Es-tu un amateur de cérémonie de remise de coupe ou?
Ben, même si je suis pas passé aussi près que Max là, en match numéro 7 de la finale de la Coupe, j'ai de la misère chaque année. Chaque année, j'ai un pincement au cœur. On dirait que peu importe la carrière que tu as, qu'elle soit 7, moi j'ai eu 7, Max a eu 12, je pense. Il y en a qui ont eu 17 ans. Si tu réussis pas à avoir ce trophée-là, t'as quelque chose qui a manqué dans ta carrière quand même. Que tu passes proche, je suis allé sur mes 7 ans 4 fois en séries éliminatoires, c'est des opportunités de la gagner. Il y a 750-800 gars par année qui se battent pour l'avoir, puis t'as pas réussi dans les occasions. Puis, t'sais, Max était plus proche que moi. Moi, j'étais plus proche que le monsieur, madame, tout le monde qui a pas joué dans la nationale. Puis ça fait mal de dire j'étais là, puis comme Max... un peu plus loin, mais ça, j'ai de la misère, puis j'ai de la misère à être content. J'ai des chums là-dedans. Tu parles de Mathieu Darche, tu parles de Julien. Tellement fier, tellement content pour eux autres. Julien était assistant GM à Bob quand moi puis Max, on était à Montréal. Puis les Québécois dans l'organisation, mais ça fait toujours mal. Ça me fait toujours un coup de couteau dans le cœur, ça, c'est sûr.
Qu'il y ait autant de Québécois dans cette organisation-là, qu'est-ce que ça vous inspire, les gars, comme commentaire, Maxime?
Ben moi, Mario, je vais commencer en disant je suis content pour Tampa Bay. Pour la première raison, c'est que je trouve que cette organisation-là fait toujours les choses avec respect, fait toujours les choses de la bonne façon. Puis dans ce temps-là, tu mérites de gagner. Tu sais, il y a des équipes, des fois, qui traitent pas leurs joueurs de la bonne façon dans les médias. On voit que la relation est tendue dans l'organisation, dans l'équipe, tout ça. C'est pas le cas à Tampa Bay. On a toujours le sentiment que les gars s'amusent. On a toujours le sentiment que le coach, les assistants d'entraîneurs, les joueurs font partie d'une équipe. C'est pas le staff d'entraîneurs, puis les joueurs, c'est vraiment une équipe avec le directeur général et tout ça. Puis je suis content pour eux. Puis bien évidemment, on est content. Les Québécois sont là, font partie de l'organisation. Les gars, ils ont eu beaucoup de succès dans les séries éliminatoires. Donc, très fier d'eux.
Quelque chose à ajouter là-dessus, Guillaume?
Ben moi, puis je suis impressionné, oui, du nombre de Québécois qu'il y a, la qualité. Un gars comme Yannick Gourde, pas repêché junior, c'est fou, là, son histoire, tu sais, c'est exceptionnel. Puis je regardais aujourd'hui sur l'Instagram des Crunch de Syracuse, ils ont mis un genre de feuille avec les alumni de l'équipe. Là. Quand tu regardes combien de joueurs qui ont passé de l'organisation gagnante par la Ligue américaine, puis le nombre de dirigeants c'est fou, là. C'est impressionnant. T'sais, John Cooper est passé par là. Jeff Halpern. Tous les gars, Julien Brisebois a été assistant de GT. Ils ont tous fait quelque chose dans cette organisation-là. Puis le chemin, puis la façon de faire une organisation au niveau du développement et autres, je pense que le Lightning l'a trouvé. Puis comme Max a dit tantôt, Julien Brisebois n'a pas eu peur de faire les gestes quand c'était le temps. Il n'a pas pesé sur le piton rouge de panique pour dire on échange tout. John Cooper n'est pas bon. Non, non. C'était le gars. Columbus a échangé tout le monde dans son équipe, tous ses choix pour aller chercher des bons joueurs pour se permettre de gagner cette ronde-là. Ils nous ont battus. Ben, on va rebondir de ça. Puis je pense que c'est tout à l'honneur du directeur général.
Et ça m'inspire quelque chose, les gars, de vous entendre parler de la douleur, en quelque sorte, là, de voir des équipes gagner la Coupe Stanley. Et je pensais à des gars comme Alain Vigneault, Michel Therrien, qui dans le coaching courent encore après le gros trophée, puis qui sont passionnés de ça. Puis je pourrais nommer plein de noms. Marcel Dionne qui me passe en tête, qui a une carrière fabuleuse parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue, qui n'a pas gagné. Mais là, je viens d'allumer sur quelque chose. Les gars, vous n'avez pas démissionné sur ce rêve-là. Là. Vous autres, là, j'imagine que... Parce qu'à travers le coaching, comme Mathieu Darche vient de le vivre dans un rôle dans l'état-major, rêvez-vous encore à gagner la Coupe Stanley, Maxime?
Je vais t'avouer, Mario, que j'y pense plus vraiment, mais ça me ferait plaisir si tu m'offres une opportunité de la gagner. je vais le prendre, ça, c'est 100% certain. Mais
nous autres, on va vous signer pour 20 ans ici. Il n'y a pas de trouble, mais tu sais, c'est comme de voir si le rêve, il meurt ou il meurt jamais, en quelque sorte, tu sais.
Je pense, moi,
je pense qu'on le vit un petit peu à travers ce qu'on voit en ce moment, là, comme tu viens de le mentionner, là, de voir des organisations comme le Lightning gagner. Je pense qu'on est capable de se voir à travers cette belle histoire-là, puis tout ça, puis de le vivre d'une certaine façon, un peu à la façon qu'on le vivait quand on était jeune, hein, quand on jouait dans la rue en patin à roulette, on jouait au hockey avec nos amis, on s'imaginait gagner la Coupe Stanley, puis tout ça, on avait vraiment le sentiment de la gagner, mais c'est la même chose. On l'a vécu, on peut s'imaginer c'est quoi les émotions, on peut s'imaginer à quel point les gars sont fiers, les familles sont fiers, puis ça nous amène de la joie aussi.
Oui, vraiment. Ouais.
Puis au final, tu sais, Mario, on se retrouve présentement, on lance un projet, la poche bleue, ça va bien, ça fonctionne, mais il reste que, tu sais, Max, il a 35 ans, j'ai 33 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, on va être où, on va faire quoi, est-ce que on va fonctionner de la même façon qu'on fait là, est-ce qu'on a des médias, est-ce que, justement, Alex Tanguy, qui est assistant coach dans la Ligue américaine, est-ce qu'un Alex Burrows, est-ce que des gars de notre génération vont tomber entraîneur-chef un jour dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, puis tu sais jamais quand le coup de fil d'un coéquipier que t'as eu va arriver, puis qui va dire, hey, c'est-tu quoi, j'ai tellement eu de fun avec toi, puis ta façon de penser, je l'aimais, puis je t'écoute aujourd'hui dans ta façon de penser la game, parce que veux pas, on fait, tu sais jamais quand ce coup de fil-là va venir, tu sais, comme Mathieu Darche, là, il travaillait chez Delmore, là, tu sais, Julien Brisebois l'appelle, hey, Mathieu, je pense que j'ai une opportunité pour toi, selon tes études à McGill, ce que t'as fait, j'ai quelque chose qui s'ouvre, ça t'intéresse-tu, Mathieu rentre, gagne la coupe, tu sais, on sait jamais quand cet appel-là arrive, c'est jamais mort. Pour l'instant, on a des projets sur la table intéressants. On a une équipe qui nous embarque avec Cogeco. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on va être? Où on va être? Ça, c'est l'autre question qu'on... Mais oui, c'est certain que ce rêve-là ne meurt jamais.
Hey, c'est drôle ce que tu viens de dire. Puis c'est très, très intéressant ta réponse. Puis on pourrait en parler au Bleu Bionique. Lui, il est parti de Parlons Sport à derrière le banc du Canadien de Montréal après avoir refusé un job d'adjoint Jacques Demers à Détroit. Alors, on ne sait jamais. Les gars, exact. Un mot sur Tyler Seguin. C'est sûr qu'on regardait les Stars qui jouaient en l'absence de plusieurs gars qui étaient blessés. C'est sûr qu'à deux buts, on se passe 13 points. On aurait souhaité en voir davantage de Tyler Seguin, mais je pense que là, les nouvelles sortent. Vous savez, une fois la série terminée, Guillaume, je pense que son corps est prêt à être étudié par la science, là. Hein?
Ouais, exact. Puis, tu sais, en série éliminatoire, moi, c'est je trouve que des fois, on évalue trop vite les performances. OK, est-ce qu'il a joué au niveau de Tyler Seguin qu'on est habitué de voir? Peut-être pas. Mais quand on regarde les blessures, quand on regarde la façon que le gars, il met son équipement chaque soir, puis qu'il se présente, puis qu'il s'en va performer dans le niveau de jeu le plus haut au monde, dans son sport, moi, je trouve ça impressionnant. Ça me fait penser à des histoires de Bob Gainey avec les épaules brisées, à Patrice Bergeron qui avait joué avec je pense que c'était son poumon ou c'était, tu sais, les gars, ils se mettent en danger pour gagner le fameux trophée, puis tu l'échappes, mais je pense qu'il faut faire des évaluations pas trop vite, des fois, des performances des joueurs, parce qu'il y a des blessures, les gars, ils acceptent tout en séries éliminatoires, ils vont jouer avec n'importe quoi pour être capable d'embarquer sur la patinoire, puis de performer, puis donner une chance à leur organisation de gagner. Fait qu'il faut être prudent quand on évalue un joueur en séries éliminatoires.
On sait jamais, on n'a jamais toute l'info, Maxime, hein, à l'extérieur d'un vestiaire.
Non, exactement. Puis ça, c'est une chose, Mario, que j'ai toujours respecté de mes coéquipiers. C'est que parfois, il y a des joueurs qui sont gravement blessés, qui jouent quand même pour l'équipe, qui vont jouer en séries éliminatoires. ils se font salir dans le monde du hockey, dans les médias, puis tout ça, mais ils disent rien. Ils se défendront jamais, ils utiliseront jamais ça comme excuse. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça difficile de voir un gars se faire un taping, avoir de la difficulté à marcher, embarquer sa patinoire, bloquer des lancers quand même. Après le match, il se fait critiquer durement, mais il s'en va pas devant la caméra, puis il dit pas, ben oui, mais ce soir, j'avais de la misère parce que j'étais blessé. Non, au contraire, il est là pour l'équipe, il dit rien, il prend pas l'attention sur lui, il y a pas de défaite, puis ça, c'est j'ai toujours eu un très grand respect pour ça. Puis je suis d'accord avec Guillaume, faut toujours prendre un petit pas par en arrière, prendre notre temps, analyser la situation. Surtout des joueurs comme lui, tu sais, tu sais que c'est un gars de talent qui patine bien normalement, qui joue très bien. Faut à un moment donné que tu analyses puis tu te dises, ben peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui va pas. Faut pas être trop dur, trop rapidement.
Oui, puis là, souvent, ça inspire Mario, la question, Guillaume, et tu joues-tu blessé? Là, le gars, il est insulté, il veut pas répondre à ça, mais vas-y avec ce que tu voulais dire.
Non, mais puis ça m'amène, tu sais, la semaine passée, on a parlé de la blessure de Maxime qu'il avait eue. Tu sais, puis quand on parle de blessure, oui, c'est un rôle différent de Tyler Seguin, peut-être que Max avait à Montréal, mais tu sais, quand il faut que tu mettes de l'énergie, quand tu es le centre de quatrième trio, quand, mais il y a eu certains matchs, certains entraînements, il y avait de la misère à mettre son patin, là. T'sais, son patin, il rentrait pas dans le pied tellement qu'il était enflé, puis tellement qu'il avait. Mm-hmm. Il embarquait sa glace, puis il allait pareil, puis personne ne savait qu'il y avait ça, puis personne ne posait de questions parce qu'il allait à 100%. Mais tu lui poses la question aujourd'hui, je suis certain qu'il y a eu des journées qui s'est dit tabarouette, qu'est-ce que je fais là, ou si je m'en vais. Parce que c'était fou, là, on était assis à côté, on jasait, puis je le voyais, son pied. Là. Mais les gars, puis ça, c'est même pas en séries éliminatoires, c'était en saison. Là, les gars acceptent des choses pour performer puis être dans la Ligue nationale, que c'est incroyable.
Là. Ça revient à ce que tu disais, Maxime, hein, pour rester là. Là, je pense que tu le disais l'autre jour, tu aurais été prêt à tout pour rester dans la Ligue, dans le fond, hein?
Exactement. Puis moi, dans ma situation, c'était un peu différent de Tyler Seguin. Moi, c'était pour garder mon travail, c'était pour garder ma job. J'avais pas le choix. Je savais que c'était une question de temps que quelqu'un pouvait prendre mon rôle. Il y a tellement de bons joueurs défensifs qui sont capables d'amener une certaine robustesse. Donc, quand tu as ta place, faut que tu la gardes. Puis je peux relier aussi une histoire comme Guillaume. T'sais, on en a parlé souvent. Je sais pas si on se rappelle Ryan White qui avait invité Guillaume à se battre. Puis là, les gens critiquaient Guillaume parce qu'il a pas jeté ses gants. Moi, je savais à l'époque que Guillaume, il avait des problèmes avec ses commotions puis tout ça, puis c'était une des décisions les plus intelligentes parce qu'il a laissé son orgueil de côté pour protéger sa santé. Puis après ça, on a fait un gros plat avec ça, mais on s'est jamais arrêté pour penser au pourquoi, parce que on s'entend que Guillaume, s'il s'était fâché, il aurait donné un très bon combat à Ryan White. Puis ça m'avait déçu un petit peu aussi de Ryan, avec qui j'avais joué, et il savait probablement que Guillaume avait des problèmes de commotion à la tête et tout ça, puis il avait peut-être pas d'affaire à aller jusqu'à là.
C'est vraiment intéressant, les gars, que vous partagez ces petits secrets-là qui ont marqué des épisodes importants de vos carrières. Quand on est échangé, j'imagine que de temps en temps, on regarde les box scores, les sommaires, pour savoir si le gars fait mieux que nous autres dans l'autre ville. Mais quelques années sont passées. Sergachev est devenu un élément important du Lightning de Tampa Bay. Qu'est-ce que, dans les souliers de Jonathan Drouin, dans la tête de Jonathan Drouin, de regarder cet échange-là, est-ce que ça motive-tu? Guillaume, comment tu vois ça?
Mario, j'étais avec le Wild. Moi, j'ai en plus une transaction comme eux, un contre un. Moi, je jouais dans le décalage horaire, j'étais Central. Fait que moi, mes matchs commençaient à 8h, le Canadien commençait souvent à 7. J'avais le trainer, puis j'avais dit, gars, là, les matchs de Montréal, quand la game commence, je veux l'avoir à sa télé. Puis la première heure de la game du Canadien, j'allais toujours voir comment Benoît jouait, comment Benoît performait, ses statistiques dans la période, son temps de glace. J'allais tout voir pour être savoir c'était quoi fallait j'offre comme performance à soir, parce que je peux pas aller en bas de ce que Benoît a fait cette année, c'est à Montréal à soir. fait que oui, on regarde ce qu'il fait, oui, ça donne des ça t'as pas besoin de motivation, mais je veux dire, ça l'amène à un effet de plus que tu te dis, à soir il y a deux buts, ça veut dire qu'à soir ça me prend deux buts, une passe, tu sais, là t'as toujours allé chercher un peu plus. Fait que oui, je peux te dire qu'une transaction, tu regardes ce que l'autre fait. Puis même un an, deux ans, trois ans après, j'étais rendu à Ottawa. Lui était rendu, je pense, à Edmonton. Je regardais pareil ce qu'il faisait, puis comment il compétitionnait. Puis on est des amis, là, moi puis Ben. Puis on s'écrivait, puis c'était super friendly. Mais il reste que oui, tu veux performer mieux que la personne contre qui tu as été échangé. C'est sûr à 100%.
Comment se sent Jonathan Drouin, tu penses, en regardant Sergachev évoluer? Même si c'est des positions différentes, la comparaison va demeurer, Max?
Alors, je pense qu'il est quand même, il est capable d'analyser la situation. Il sait que c'est un contexte d'équipe. Là, on parle aussi d'un attaquant, un défenseur. Tout le monde a un impact sur la patinoire. C'est pas juste l'histoire d'un gars. Mais c'est certain que, comme Guillaume dit, il y a un côté orgueil. Tu veux prouver que, dans le fond, c'est ton équipe qui a gagné l'échange. Moi, je l'ai pas vécu comme Guillaume. Par contre, j'ai été échangé contre des choix, donc des choix qui ont jamais joué dans la Ligue nationale. J'ai eu de la misère à les suivre parce que
ils n'ont pas joué. Il y en avait trop. Brett Sterling, McGregor, Sharp, troisième round en 2000, on oublie ça. Marcel Gauche, même la dernière en 2015. Fait que, ouais, je te comprends. Mais est-ce que c'est un... je veux dire, moi, je m'attendais à plus de Jonathan, puis je dis pas ça pour m'acharner. Là, je le dis, c'est un bon joueur de hockey, clairement. On voit encore des beaux flashs, mais je m'attendais à beaucoup plus. Je pense que Marc Bergevin s'attendait à beaucoup plus. Est-ce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est un vol, les gars, cette transaction-là? Même si Bergevin a une bonne moyenne dans la plupart d'entre elles, là, celle-là, là, ce qu'on peut faire. Vu de Tampa Bay, ça ressemble-tu à un vol?
Ben, quand tu regardes, tu sais, oui, Sergachev performe bien, puis on savait ce que Tampa Bay allait chercher en faisant cette transaction-là. Mais quand on a fait la transaction, Mario, de Jonathan Drouin, là, c'est quoi qu'on allait chercher comme joueur? Est-ce que c'est un gars de 50, 60 points? C'est ça qu'on allait chercher, tu sais. Quand tu regardes ses statistiques à Jonathan Drouin, c'est un gars de 50, puis sa meilleure saison en carrière, c'est 53 points, il l'a fait deux fois. Donc, c'est un gars de entre 50 et 60 points. Donc, à partir du moment que tu connais les attentes, à partir du moment que tu sais c'est quoi que tu as comme transaction, c'est un joueur qu'on avait besoin à Montréal, du talent pur, un Québécois.
Mais Guillaume,
va te faire entre 50 et 60 points.
Il était pas vieux, là. Écoute, là, regarde, Guillaume, Jonathan, il est mars.
Il y a 25 ans.
Il y a 25 ans en mars, OK? Fait qu'il va avoir 26 ans en mars. Il est arrivé ici en 2017. Fait que recul de 3. À 23 ans, est-ce que tu te dis en regardant les stats d'un gars qui avait pas tant de matchs en saison régulière dans la ligue que, tu sais, il y avait 53 points à sa première année complète, en fait, là. Il avait joué une première année complète, mais recrue. Mais à sa première année complète, 21 buts, 32 passes, 53 points à 22, 23 ans.
C'est excellent, là.
Mais t'as envie de dire que le gars va continuer de progresser.
100%. Est-ce que
c'est pas arrivé en termes de production?
Tu sais, mais moi ça j'ai toujours un bémol là-dessus dans le sens que quand il jouait à Tampa Bay, il y avait Kucherov, il y avait Stamkos, il y avait des joueurs avec lui. Quand il était sur l'avantage numérique, là, je me souviens de la série contre Détroit où il contrôlait le half-wall à gauche puis il faisait la passe en arrière, c'était quasiment un point assuré à chaque coup. Je veux pas être méchant envers les partisans du Canadien, mais on n'a pas cette qualité de joueur là pour jouer puis c'est la première fois que je vois un gars comme Suzuki qui est capable de suivre l'intelligence puis le talent naturel d'un Jonathan Drouin. Moi, je pense que Puis les gros canons de la Ligue nationale, quand on regarde le free agency, là, les joueurs autonomes, je souhaite jamais, dans un sens, parce qu'on n'a pas en ce moment des joueurs qui peuvent aller avec... Tu sais, Taylor Hall arrive à Montréal, tu le fais jouer avec qui? Tu sais, honnêtement, on a-tu un joueur que tu dis, ah, lui, c'est sûr, à part Suzuki, qui est vraiment un sens du hockey, qui va faire en sorte qu'un marqueur de 40 buts va faire 40 buts. On en a-tu des David Desharnais qui réussissaient à ce que Pacioretty faisait 45, 35, 40 buts par année? Tu sais, c'est ça aussi, il faut qu'il soit entouré, il faut qu'il y ait le joueur pour performer avec lui. Je pense pas qu'en ce moment, on a un autre joueur de talent brut ou pur, comme un Jonathan Drouin peut être, qu'il avait quand il performait avec le Lightning.
Un excellent point, Maxime, cependant, quand t'échanges un choix de première ronde, 9e total en Sergachev, alors que tu sais que tu vas anéantir ton flanc gauche, que tu dis bye-bye à Markov, bye-bye à Emeline, que Thénardier, Beaulieu n'ont pas abouti. Quand tu fais l'échange puis tu donnes Sergachev parce que l'autre club le veut absolument, tu t'attends plus que 53 points par année du gars que tu vas chercher, là.
Ça dépend de tes besoins, Mario. Je pense que si tu vas chercher quelqu'un, puis je prends l'exemple de Tampa Bay qui ont payé un choix de première ronde pour aller chercher des gars de troisième, quatrième trio, mais ça a payé, puis c'est ça qu'il avait besoin cette année. On a encore le temps avec Drouin, c'est un jeune joueur, Guillaume l'a mentionné. Faut pas sous-estimer l'effet d'un trio, la chimie sur un
c'est
trio.
Vrai, hein,
parce que parfois, tu peux avoir la meilleure saison de ta vie. Je te donne un exemple, au centre, mais tes deux alliés dorment au gaz, mais ça fonctionne pas. T'as deux joueurs qui fonctionnent sur un trio, mais il y a un gars à droite qui manque de vitesse, ben ça fonctionne pas encore. Donc c'est vraiment une histoire de trio. Je pense qu'on a eu l'exemple avec les chimies là, qu'on a eu cette année, là, les Dano, Gallagher, puis tout ça. Ça fonctionnait parce qu'ils s'entendent bien, ils s'entendent sûrement bien en dehors de la patinoire. Ils ont des plans de match qui fonctionnent. Si ça fonctionne pas, on peut pas toujours blâmer un gars et ses statistiques. Ça prend des défenseurs qui relancent l'attaque. Jonathan Drouin, c'est un style de joueur qui il est rapide, il est offensif, mais ça prend quelqu'un pour lui donner la rondelle en sortie de zone. Si des fois il rentre dans le trou, il reçoit pas la rondelle, peut-être que personne le voit dans les gradins ou à la télévision, mais s'il y avait quelqu'un pour lui faire cette passe-là, mais peut-être qu'il aurait créé quelque chose de merveilleux. Puis pour l'instant, en tout cas, dans les dernières années, il n'a peut-être pas eu la chance ou le talent de s'entourer comme à Tampa Bay.
Les gars, je vous donne un 11 sur 10 sur les deux plaidoiries que vous venez de nous servir en ondes, mais au-delà de la production de points, je veux dire, on le sent quand un gars s'arrache le cœur sur la glace, là.
Mais Mario, puis l'exemple, puis avant...
Ou ne se l'arrache pas, tu sais.
Avant ton intervention, j'allais parler d'un gars comme Thomas Tatar. Tu sais, je pense que c'est un exemple qui est idéal, qui est parfait, dans le sens qu'à Détroit, il avait des super belles saisons, il performait, il était jeune, des saisons de 56, 45, 46 points, on s'en va le chercher à Vegas, on paye un choix de 1, de 2, puis de 3, puis après 20 matchs, il se retrouve comme un throw-in dans un échange pour aller chercher Max Pacioretty. Tu sais, quand tu parles de trouver de la chimie puis trouver des joueurs avec qui jouer, je pense que c'est un exemple parfait. Et moi, Jonathan, je suis encore patient. Je pense qu'il peut emmener quelque chose de bien avec un joueur comme Suzuki.
Je le souhaite. Nous le souhaitons tous. Et Marc Bergevin, j'imagine, le premier. Puis il a montré des beaux flashs quand même pendant le tournoi estival cet été. On a hâte de voir la suite. On ne sait pas quand ça va recommencer. Les gars, on vous donne rendez-vous, les amateurs de la poche bleue, pour le podcast 19h30 tout à l'heure. Évidemment, les amateurs de sport poursuivent. Merci, Maxime. Raymond Bourque avec vous ce soir. Merci, Guillaume. Bonne soirée, les gars.